Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de
tout ici Jabodima
qui renverse des raisonnements, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Comment entrer dans la quatrième dimension sans devenir fou? Je crois de tout mon cœur à la quatrième dimension et aux extraterrestres. Dieu n'est pas de ce monde, il est extraterrestre, d'accord? Ce n'est pas un petit bonhomme vert, ça c'est sûr. Je ne pense pas non plus qu'il se déplace avec des vaisseaux spatiaux, comme dans la science-fiction, mais Dieu n'est pas de ce monde, il est d'une autre dimension. Cette dimension s'appelle la dimension spirituelle. Spirituel, ça veut dire du domaine de l'esprit. Et l'esprit n'est pas une capacité intellectuelle supérieure, comme le pensent les Français. Parce que nous, on dit, quand quelqu'un il a de l'esprit, ça veut dire qu'il a une capacité intellectuelle assez forte. Parce que on a confondu en France, on a confondu la raison et les choses spirituelles. Et on a remplacé les choses spirituelles par la raison. Donc quelqu'un qui a une forte capacité intellectuelle, qui sait raisonner, qui sait réfléchir, c'est quelqu'un qui passe pour avoir de l'esprit. Mais l'esprit, c'est différent que l'intellect. C'est supérieur même à l'intellect. Et Dieu est esprit. Dieu est cet être surnaturel. Et Dieu n'est pas défini par nous. Il est au-dessus de nous. Et il a été avant nous. Et nous n'allons pas un jour mourir. Et puis, on n'aura pas plus de, notre vie n'aura pas plus de valeur qu'une mouche écrasée. Mais nous allons vivre pour toujours. Pour toujours dans une dimension spirituelle. Et cette dimension, nous sommes appelés à y rentrer en tant qu'être humain. Avant de mourir. Il vaut mieux d'ailleurs. Parce que si on meurt et qu'on découvre qu'il y a un Dieu dont on ne voulait jamais rien savoir, et qu'on découvre qu'on est esprit et qu'on va vivre pour l'éternité, mais qu'on n'a rien voulu savoir de Dieu, eh bien on va vivre pour l'éternité en tant qu'esprit éloigné de Dieu. C'est une définition de l'enfer. L'enfer n'est pas un endroit où il y a des flammes avec des marmites dessus et des diablotins qui s'amusent à torturer les âmes des damnés. C'est pas ça l'enfer. L'enfer, c'est un lieu inférieur. Et c'est un endroit où Dieu n'est pas, par définition. C'est pour ça que on peut dire que certains endroits sur Terre, c'est un véritable enfer. Dans une famille, ça peut être l'enfer. Si on se détruit, si on se déchire, si on se fait la guerre tout le temps, on peut dire que c'est une définition. Et donc il y a des endroits sur Terre qui sont particulièrement pénibles. Mais ce n'est encore rien en comparaison de ce qui va venir. D'un autre côté, on peut aussi, d'une certaine façon, vivre déjà le ciel sur la terre en invitant le Seigneur à agir. Alors, c'est ce qu'on va voir un petit peu ensemble. Nous avons besoin, je le dis dès à présent, nous avons besoin d'être conscients, je dis bien conscients, de cette quatrième dimension. Et ça ne fait pas de nous des espèces de gens, des fanatiques, des extrémistes, des gens bizarres, illuminés, exaltés, qui n'ont plus les pieds sur terre, mais ça fait des gens qui savons nous situer. On sait se situer dans le monde dans lequel on vit. Par exemple, nous pouvons facilement nous situer maintenant, physiquement. Vous savez vous situer, vous êtes sur votre chaise. On peut se situer par rapport à cette pièce, d'accord? Il y a une longueur, il y a une largeur, il y a une hauteur. Et la Bible nous parle des différentes dimensions. Peut-être ça vous rappelle quelque chose pour les érudits de la parole de Dieu. Vous avez Éphésiens 3 qui nous dit, voilà ce que l'apôtre Paul priait pour cette église des gens qui habitaient à Éphèse. Où c'était Éphèse? La Turquie actuelle, hein? C'est là qu'il y avait une des plus grandes églises et des plus florissantes du début du siècle. Et Paul priait et il disait que Dieu vous donne que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Verset 17. Étant enraciné, fondé dans l'amour. Et la suite, c'est que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Vous voyez, ici, on a quatre dimensions. D'accord? Quatre dimensions, ça ne veut pas dire que, par exemple, j'ai la hauteur, je peux mesurer la hauteur du plafond, et si je veux la profondeur, je creuse dans le sol qui est là, et je descends. Parce que ce n'est pas une dimension supplémentaire. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la même dimension. La dimension de la hauteur, elle peut monter ou elle peut descendre. Mais c'est la même dimension. Mais il y a une quatrième dimension ici. La longueur, largeur, hauteur. Et maintenant, on a autre chose encore, la profondeur. Alors, elle va dans quelle direction, la profondeur? La profondeur, elle va dans une autre dimension. Et cette dimension, c'est la dimension de l'esprit. D'accord? Je ne sais pas combien de dimensions existent. Il y en a peut-être plus qu'on imagine. Mais en tout cas, il y en a une dont nous avons besoin d'être conscients. C'est celle de l'esprit. Elle existe, celle-là. Ainsi, le royaume, souvent on a parlé du royaume des cieux ou du royaume de Dieu. À un moment, ils ont dit, mais quand est-ce qu'il va venir, le royaume de Dieu? Et Jésus a répondu aux gens qui étaient autour de lui. Il a dit, le royaume de Dieu, il ne vient pas de manière à frapper les regards. Parce qu'ils avaient une dimension naturelle du royaume de Dieu. Il a dit, nous on est là, en tant que juifs, occupés par les Romains. Le royaume de Dieu, ça veut dire que Dieu envoie un messie, un roi, qui va remettre de l'ordre, et puis on verra, maintenant c'est le royaume de Dieu. En fait, pour eux, royaume de Dieu, ça voulait dire une théocratie. Parce que c'est une théocratie. C'est un pays, par exemple, on dit c'est Dieu qui gouverne ce pays. En fait, toutes les théocraties, c'était souvent les prêtres qui gouvernaient le pays et qui disaient, voilà, Dieu a dit que, ou Allah a dit que, parce qu'on a maintenant le problème des républiques islamiques, etc. Ben, c'est des formes d'abus de théocratie. Mais une vraie théocratie, ça voudrait dire que c'est Dieu qui dirige le pays. Et donc, ils pensaient qu'un royaume viendrait de cette façon. Jésus a dit non. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Il est en vous. Donc, c'est une profondeur, c'est une dimension différente. Il est en vous. De la même façon, on se dit, Dieu est au ciel, alors il est où? Comme j'ai dit des fois, si Dieu est en haut pour nous, il doit forcément être en bas pour les Chinois. S'ils sont de l'autre côté de la terre, si on raisonne simplement d'une façon naturelle, ça ne marche pas. Il est donc dans une autre dimension. Il est dans le royaume de Dieu qui est une dimension spirituelle. Ce royaume de Dieu peut se manifester au niveau naturel, mais nous avons besoin de réaliser, avant tout, c'est une autre dimension. Maintenant, en quoi ça nous intéresse, finalement, de savoir ça? Tu dis, c'est bien beau, mais en quoi ça nous intéresse? Ça nous intéresse de savoir que les choses de l'esprit étaient d'abord, et les choses naturelles ont été créées après. Nous avons entendu à l'instant, pendant notre culte, cette parole qui confirme tout à fait ce que je suis en train de vous entraîner à me suivre et à réfléchir. On a entendu que c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers, une autre version dit le monde, et une autre version dit même les mondes, des mondes au pluriel, a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Nous avons, hélas, en tant qu'humains, tendance à toujours croire que ce qui est visible, ce qui est palpable, ce que nos cinq sens peuvent toucher et ressentir, c'est la réalité. Ça, c'est la réalité. Et c'est vrai, dans un sens, on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Mais nous avons besoin de réaliser que ces choses visibles ont été créées par l'invisible. De toute façon, qu'on mette sa foi en Dieu ou qu'on ne la mette pas en Dieu, à la rigueur, qu'il y ait la puissance du Saint-Esprit qui a créé le monde par la suite de la parole de Dieu qui a proclamé des choses, ou que quelqu'un me dise « C'est à la suite d'une grande explosion Big Bang que tout s'est mis en place, que tout a évolué et que tout... » Finalement, ils ne font que dire d'une certaine façon la même chose, mais en niant Dieu, c'est-à-dire que c'est venu de rien et d'ailleurs, d'accord ? Puis notre peut-être raison humaine a un petit peu du mal à suivre là-dedans, mais nous savons qu'il y a une puissance spirituelle qui a existé avant et qui a dit ces choses et qui les a proclamées. Et nous savons par les évangiles que ces choses n'ont pas disparu. Quand on pense que Jésus a multiplié de la nourriture, encore que Dieu fasse grandir un arbre ou une plante, notre esprit, notre intelligence peut le concevoir. Ça, on peut, oui, bon, c'est dans la loi de la nature, ça grandit, mais que quelque chose puisse multiplier de la matière. Il y avait dans ces corbeilles des pains, des poissons, et puis les gens ont mangé, et puis il en restait encore plus qu'il y avait au début. Ce n'est rien d'autre qu'une démonstration de cette loi spirituelle qui est au-dessus des lois naturelles, au-dessus. Alors j'ai dit, en quoi ça nous intéresse ? Mais que cette loi spirituelle est à notre disposition tous les jours. Tous les jours, c'est ce qu'on appelle un miracle. C'est ce qu'on appelle la réponse de Dieu à nos prières. Que tous les jours, Dieu est prêt, je ne dis pas à faire n'importe quoi, mais que Dieu est prêt à agir par sa capacité en tant qu'esprit, par le Saint-Esprit, tous les jours, il est prêt à agir dans le monde naturel. Vous n'avez pas besoin d'aider Dieu pour réaliser ça. Il arrivera bien tout seul à faire sa part. C'est vrai. Souvent, nous voulons juste prier ce qu'il nous semble raisonnable de prier. Non, nous avons besoin de demander pour des miracles. Nous avons besoin de laisser Dieu être Dieu en faisant des choses impossibles. C'est son domaine. C'est son domaine à lui, des choses qui nous semblent impossibles. Par la foi, nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ça, c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16, qui était déjà tenté de se décourager ? Vous pouvez tous lever les deux mains. Chacun de nous, à un moment donné, découragé, plus, on voit plus la sortie. Mais il est dit ici, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Il y a une raison pour laquelle on ne perd pas courage. Quelle est cette raison ? Il dit, même si notre homme extérieur se détruit. L'homme extérieur, ça fait référence à ce que j'ai dit. Tout ce que je peux voir, tout ce que je peux toucher, tout ce que je peux éprouver. Si celui-là se détruit, si les choses naturelles ne vont pas comme on voudrait, si les choses matérielles ne vont pas comme on voudrait, il est dit, il y a autre chose. Notre homme intérieur se renouvelle. Intérieur. Ça vous fait penser à quoi ? J'ai parlé des quatre dimensions. C'est la profondeur. Vous voyez ? L'homme intérieur, c'est la profondeur. C'est ce qui nous fait, on peut dire, pénétrer dans la dimension du royaume de Dieu. Là où il y a les choses de l'esprit. Les choses réelles, qu'on ne voit pas, mais qui sont là. Dieu est là. Les anges sont là. Il y a tout un monde que nous ne voyons pas et qui est là tout autour de nous. Peut-être même des fois on le traverse. Je sais que on a l'impression maintenant, avec tout ce que la littérature et le cinéma, etc. ont fait, on a l'impression que maintenant, c'est nous qui sommes à côté de la plaque et on est simplement en train de copier des choses vues dans des films ou lues dans des romans. Mais en réalité, c'est l'inverse. C'était déjà des choses qui existaient et donc la pensée populaire et tous ceux qui ont écrit des choses, des fois inspirés par le diable, et ont fait que toutes ces choses sont un peu perverties maintenant. Vous comprenez ce que je veux dire ? On parle des fantômes qui traversent les murs. Ben, Jésus était quelqu'un qui, après sa résurrection, n'avait pas besoin de passer par la porte. Les disciples étaient rassemblés, et tout à coup, Il était là au milieu d'eux. Ils sont un peu effrayés, bien sûr. Mais il a dit, vous pouvez me toucher. Voyez, je ne suis pas un esprit simplement. J'ai un corps. Il avait un nouveau corps incorruptible, de même nature que ce que nous allons recevoir. Et donc, il disait, c'est une réalité, mais d'une autre dimension. Il n'était pas limité au mur, comme formidable. Voyez, je ne suis pas en train de vous raconter des fables. Si vous croyez à l'Évangile, si vous croyez à la parole de Dieu, ce sont des choses que vous devez vous entretenir, de réaliser. C'est des choses réelles. Ces choses existent vraiment. On n'est pas seul dans cette pièce. Il y a dans cette pièce actuellement des anges, ça on le sait, c'est promis par la parole. Des démons peut-être, j'espère qu'il n'y en a pas trop, qui vont assez loin de nous quand on vient quelque part. Normalement, ils n'aiment pas venir dans les églises quand on loue le Seigneur, qu'on prêche la parole de Dieu, qu'on prie et tout ça. Mais ils veulent des fois quand même venir dans les églises pour troubler les réunions ou pour vous troubler, vous, pour que vous puissiez pas écouter. Mais donc, c'est des choses qui existent aussi. Et il nous est dit, donc, notre homme intérieur, cet homme spirituel, qu'est-ce qu'il fait? Il se renouvelle de jour en jour. Il se renouvelle. Il y a une capacité, là encore, d'auto-régénération. On se renouvelle. On garde, en fait, une éternelle jeunesse. On est dans une dimension où on est, c'est formidable, là on ne sera jamais fatigué, toujours en forme, jamais malade. C'est des choses que Dieu prévoit pour nous. Et l'apôtre Paul, qui pourtant a connu beaucoup, beaucoup de souffrances de toutes sortes, pires que ce qu'on pourrait imaginer, il parle de la façon suivante. Il dit nos légères afflictions du moment présent, tout petit bobo, on pourrait dire maintenant, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Il y a comme quelque chose qui est inversement proportionnel. Petite souffrance naturelle, poids éternel de gloire. Parce que nous regardons, remarquez bien le verset 16, nous disions, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Alors c'est important tous les mots en français, le c'est pourquoi, et maintenant on a parce que. Pourquoi est-ce que nous ne perdons pas courage? Parce que quoi? Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Éternelles, j'aime bien préciser, éternel ça ne veut pas dire qui dure toujours, mais éternel ça veut dire qui est hors du temps, qui n'est pas concerné par le temps. Nous croyons que tout être humain, dès sa conception, dès le ventre de la maman, est déjà un être éternel. Il va vivre pour toujours. Il ne va jamais cesser d'exister. Quelle sera sa vie? Quelle sera son existence sur terre? Quelle sera sa destination finale? Ça, on ne sait pas encore, mais on sait que ça sera quelqu'un d'éternel. Il a été créé par quelqu'un qui est invisible, qui est Dieu. Vous voyez, la partie spirituelle de cet être est éternelle. Et nous, comment faire pour ne pas perdre courage? C'est de ne pas regarder aux choses visibles. De ne pas évaluer notre vie constamment par les choses visibles, mais par les choses invisibles. Franchement, si vous regardez dans la parole de Dieu, avec tout ce que Dieu vous promet, vous allez passer l'éternité avec lui. Plus aucune souffrance, plus aucune maladie. Vous serez constamment dans la paix, dans la joie. Vous allez expérimenter l'amour de Dieu. Ça va durer pour toujours. Et puis, à côté de ça, vous avez maintenant un moment difficile peut-être, mais ça ne représente pas grand-chose, si on le voit comme ça. Alors, les choses visibles sont passagères, les choses invisibles sont éternelles. Nous ne sommes pas maintenant ici en train de dire « Moi, je suis celui qui sait tout, etc., qui fait tout parfaitement. » Mais je suis là pour vous encourager, avec moi, poursuivons ce chemin de devenir quelqu'un de spirituel. Nous sommes un esprit. Mais être spirituel, c'est encore différent. Comprenez ? Être spirituel, ça veut dire maintenant, je sais que je suis un esprit, maintenant il faut que je me comporte comme tel. Regardez par exemple dans le naturel, certains peut-être auraient voulu être des princes ou des princesses, mais quand vous voyez comment certains vivent, quand vous êtes dans une famille de princes, il y a tout un protocole, il y a tout un code, comment il faut se comporter, etc. Et donc on a des situations où par la suite vous pouvez pas choisir votre conjoint, il y a des mariages arrangés, il y a toutes sortes de contraintes. Pourquoi ? Parce qu'on peut dire la personne est née dans une famille royale, mais maintenant il faut qu'elle ait l'apparence, l'extérieur de tout ce que ça comporte. On peut dire pour nous c'est un petit peu de la même façon. On est né dans la famille de Dieu, mais peut-être on ne ressemble en rien du tout à un enfant de Dieu au départ. Peut-être même, si vous voyez un bébé qui vient de naître, et vous regardez un homme ou une femme adulte pleinement développé, vous pourrez, quelqu'un qui serait complètement ignorant dirait, quel rapport entre les deux? On dirait, mais ce bébé, il va grandir, il va devenir un jour un homme et une femme, ou une femme. Alors, vous voyez, c'est un petit peu de la même façon. Nous sommes spirituels en tant que créature, mais se comporter comme un être spirituel, ça demande quelque chose de supplémentaire. Alors on va voir 1 Corinthiens 2. Il nous est dit au verset 12, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Pourquoi on l'a reçu, l'esprit qui vient de Dieu? Parce que c'est que dans la suite. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Vous voyez, il y a une raison. Le Saint-Esprit n'a pas été juste donné pour qu'on se sente bien. Mais pour plus que ça, pour que nous puissions connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Quelles sont les choses? Est-ce que c'est à manger, à boire, de l'argent, une voiture, une maison? Les choses que Dieu nous a données par sa grâce, c'est avant tout des choses de l'Esprit. Vous voyez, comme on a dit, pour Jésus, ce n'était pas un problème de multiplier de la nourriture. Ce n'était pas un problème de guérir un malade. Bon, guérir un malade, on peut encore penser quelqu'un qui, de mauvaise santé qu'il était, puisse devenir de nouveau, puisse se rétablir. Bon, ça, c'est une dimension. Mais imaginez un lépreux qui est guéri. Un lépreux qui est guéri, ça veut dire qu'il manquait des morceaux. Son corps était rongé par cette terrible maladie. Manquait peut-être des morceaux de ses membres déjà. Jésus, quand il guérit le lépreux, il se voit guéri. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui manquait, ben, ça ne manque plus. Il n'y a plus de traces au niveau de la peau, de rien du tout. Donc pour lui, ce n'est pas un problème de créer à partir des choses spirituelles, des choses dans le naturel. Donc le plus important pour nous, c'est de connaître quoi? Les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Qu'est-ce qu'il nous a donné par sa grâce? La capacité d'investir la quatrième dimension, de vivre dans un monde spirituel où il se passe des choses spirituelles, de pouvoir prier et de réaliser je suis en communication avec Dieu quand je prie. Comme on disait autrefois, on disait des choses du style nos prières ne montaient même pas jusqu'au plafond. On comprend ce qu'on veut dire par là, ça veut dire des fois on fait des prières, on a l'impression que Dieu n'écoute pas, etc. Mais ça c'est des exercices intellectuels, on essaie de se convaincre est-ce que Dieu écoute ou est-ce qu'il n'écoute pas. Quand on fait la prière selon la parole de Dieu, qu'on prie avec foi, on prie, on s'exprime et on sait qu'il y a quelqu'un qui est de l'autre bout de la ligne, si vous préférez. Il y a quelqu'un qui écoute. Comme quelqu'un dit avec humour maintenant, avec tous les répondeurs téléphoniques qu'il y a partout. Hein. Quand vous priez, vous n'avez pas un répondeur automatique qui vous répond « Allô, oui, c'est Dieu, je ne suis pas dans la salle du trône actuellement, laissez votre message, je répondrai dès que je serai de retour. » Ce n'est pas le cas. Vous avez une communication en esprit avec Dieu et on réalise que nous pouvons, verset 13, nous pouvons en parler non pas avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, en employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. On a besoin de se réveiller un peu et de ne pas vivre une vie chrétienne qui soit juste charnelle. On est d'accord là, tout le monde ? Qui pense qu'il est un chrétien spirituel ? Levez la main, s'il vous plaît. Bah, écoutez, non mais c'est simple. On peut vérifier avec un certain nombre de critères. Par exemple, au chapitre 3, Paul dit « Ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnels. » Pourtant, les Corinthiens, d'après les critères de certains, on aurait dit « Ça, c'est une église spirituelle. » Parce qu'il y a des dons spirituels qui se manifestent. Il y a des miracles. Il y a des gens qui sont baptisés dans le Saint-Esprit, qui parlent en langue. Vous imaginez que le fait d'être baptisé dans le Saint-Esprit ne fait pas de vous un chrétien spirituel. En fait, ce qui fait de vous un chrétien spirituel, c'est l'habitude à avoir un comportement selon Dieu. D'accord ? C'est ça que ça veut dire. Pas un petit coup d'onction ou de don spirituel de temps en temps. Ça, c'est formidable que ça se passe. Comme la vision que je vous ai racontée, on voit, ça ne s'invente pas, ce n'est pas un hasard. C'est la preuve qu'il y a un Dieu qui connaît des secrets et des mystères. Mais ici, qu'est-ce qu'il dit ? Verset 3, « Puisqu'il y a parmi vous de la jalousie des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme ?» Donc, il paraîtrait que c'est une vertu tout à fait charnelle d'avoir des jalousies, des disputes. Ça, c'est le propre de l'homme. Quand vous voyez quelque chose, les comportements de ce type, jalousie, dispute, ben, ça prouve que c'est bien humain. On pourrait faire référence aussi à Galates 5 pour les œuvres de la chair. Si vous voulez voir si vous êtes spirituel, vous regardez, débauche, impureté, dérèglement, idolâtrie, magie, rivalité, querelle, jalousie, animosité, dispute, division, secte, envie, ivrognerie, excès de table et choses semblables. Tout ça, c'est la définition du chrétien charnel. Et de toutes ces choses, on les retrouve, plus ou moins. Mais dans les églises, on trouve ces choses constamment. Et l'église de France est un exemple pour ça maintenant. Elle n'arrive pas à former ce corps de Christ que Dieu voudrait. On va relever le défi, bien sûr. Mais pour le moment, on ne voit pas qu'il y ait de réalisation de ce dessein de Dieu. Au contraire, les œuvres de la chair agissent pour que le corps de Christ reste éclaté, morcelé, divisé. Critique, jalousie, que des œuvres de la chair, alors que nous sommes appelés à vivre des choses spirituelles. Donc il faut entrer dans la quatrième dimension. Il faut y vivre tout le temps. Il faut être sensible aux choses de l'esprit. Nous sommes appelés à ça. On a parlé d'ivrognerie, par exemple, dans cette œuvre de la chair. Mais la personne qui n'a pas sa boisson, il lui faut sa dose d'alcool. Il supporte pas. Il serait prêt à faire n'importe quoi pour trouver sa bouteille. On peut dire qu'il a soif. Il a une soif qui n'est pas naturelle. Il a une soif qui ne sera jamais étanchée de cette façon. D'accord ? Mais on réalise, que ce soit maintenant pour l'alcool, pour le tabac, pour la drogue, ou pour d'autres choses, des gens qui sont obsédés, il leur faut cette chose absolument. Moi, j'ai dit d'une certaine façon, nous devrions être comme ça pour les choses spirituelles. Assoiffé de Dieu, avoir le désir sans cesse d'être en sa présence, en sa compagnie, de vouloir expérimenter encore plus de lui. Pas juste passer un bon moment le dimanche matin et après repartir à nos activités comme si de rien n'était, mais une vie vraiment imprégnée par Dieu. Imprégnée par Dieu, c'est pour ça que j'ai précisé sur le titre, entrer dans la quatrième dimension sans devenir fou, sans passer maintenant pour un fanatique religieux. Mais être spirituel ne fera jamais de vous quelqu'un qui devient fou. D'accord ? Être religieux peut vous conduire à la folie. Et ça, c'est différent. Mais donc, imaginez, Jean, dans l'épître, non pas l'épître, dans l'évangile selon Jean, quand Jésus a rencontré la Samaritaine au bord du puits, elle était allée pour puiser de l'eau, et donc Jésus lui a dit, celui qui va puiser de cette eau, il aura toujours soif. Mais moi j'ai de l'eau qui peut vraiment désaltérer, et celui qui vient à moi, il n'aura jamais plus soif. Toutes ces choses que les gens cherchent, soit dans la drogue, soit dans les divertissements, les amusements, etc. Et nous ne sommes pas du tout contre le fait de s'amuser, bien au contraire, mais pas d'être diverti loin de Dieu. Toutes ces choses qu'on cherche, rien n'étanche la soif. Sauf Jésus peut étancher cette soif. Il a dit, moi j'ai de l'eau. Une eau qui est d'une nature totalement différente. Et il parle ici de l'eau vive. Une eau qui contient la vie. C'est assez amusant d'ailleurs de le voir de cette façon. Puisque l'eau, c'est la vie, on le dit souvent. Hein. Toute la planète Terre est constituée en grande partie d'eau. On a absolument besoin d'eau constamment. Tous les jours, un besoin de boire. Et donc, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif. Donc ça, c'est une première partie. Si vous avez fait cette démarche, vous êtes venu à Jésus, vous avez trouvé des réponses pour votre vie, le sens de votre vie, vous avez trouvé que vous êtes en route pour la vie éternelle, il y a une certaine soif qui est étanchée. Mais maintenant, une fois que cette soif est étanchée, vous avez un but maintenant pour votre vie. Vous savez où vous allez pour l'éternité. Maintenant, il y a une deuxième soif que vous avez besoin d'avoir. Et Jésus en parle dans deux chapitres plus loin, ou trois, dans Jean 7, au verset 37. Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Donc, il s'agit d'avoir soif à nouveau. Pas la même soif. Cette fois-ci, une soif de plus. Comprenez, c'est comme quand vous avez mangé quelque chose qui était tellement bon que vous voulez une portion supplémentaire. C'est pas que maintenant, vous n'en avez plus besoin. En fait, votre corps est satisfait. Il a ce qu'il lui faut. Et vous avez le désir de plus. C'est un peu dans ce sens qu'on peut le comprendre. Puisque Jésus avait dit, si quelqu'un boit de cette eau vive, il n'aura plus jamais soif. Il y a une soif qui est étanchée. Mais maintenant, je vous parle de la deuxième soif. Celle de voir vraiment le Saint-Esprit agir en vous et couler au travers de vous. Moi, j'aimerais en arriver à ce que l'apôtre Pierre expérimentait. Il nous a dit, quand il passait dans la rue, même son ombre qui touchait les gens, ils étaient guéris. C'est une belle image, ça. Ça parle de quoi ? C'est plus une personne totalement naturelle. Il y a quelque chose de spirituel, de surnaturel qui se dégage. C'est pas vraiment l'ombre du soleil en réalité. C'est comme ça que les gens le comprenaient. Alors si le pauvre gars qui était assis de l'autre côté, où il n'y avait pas l'ombre, il n'aurait rien reçu. C'était davantage l'onction de la présence du Saint-Esprit qui se dégageait de lui. Rien que par sa présence. Vous avez déjà remarqué ça? Il y a des gens avec qui vous êtes bien. Vous vous sentez bien dans leur présence. Des fois vous remarquez que c'est parce que c'est des gens qui sont non pas religieux, mais chrétiens. Ils ont Jésus dans leur vie, ils vous communiquent quelque chose. C'est peut-être la paix. Vous sentez bien chez eux parce qu'ils se dégagent la paix. C'est assez difficile d'être à l'aise avec quelqu'un qui est tourmenté intérieurement. On le sent. Il y a une tension. On n'est pas bien. Donc il se dégage quelque chose d'une personne qui est remplie de Dieu. Bien sûr, nous, on voudrait aussi le côté spectaculaire. Délivrance, guérison, etc. Continuons de rechercher, hein. On est dans la bonne direction. Mais ne méprisons pas ce qu'il y a déjà. Il y a la paix. Peut-être la joie aussi se manifeste. L'amour. Vous voyez, on le ressent aussi. On ressent tout de suite. Si quelqu'un vous aime pas, vous arrivez quelque part, et quelqu'un vous apprécie pas, il aura beau dire bonjour et faire une espèce de grimace qui se veut un sourire, ça ne prend pas. On le sent qu'il n'y a pas. Donc, mais vous êtes quand même des personnes qui avez reçu le Seigneur, il est en vous. Il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Quand la Bible parle de croire, elle ne dit jamais une foi passive. Bon, ben voilà, je crois, des fleuves d'eau vive couleront de moi. et je reste là, je fais rien. Non, jamais rien ne se passera. Si je crois, alors ça me poussera à agir. Si je crois, alors ça me poussera à parler. C'est ce qu'on a vu le passage de 2 Corinthiens 4 tout à l'heure, quand il est dit « Ne perdons pas courage ». Juste avant, il a dit « Nous avons ce même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Un vrai croyant, selon la Bible, il va, tôt ou tard, il va parler de ce qu'il croit. D'accord ? C'est pour ça aussi que l'histoire d'être croyant et pas pratiquant, ça ne prend pas. Si quelqu'un est croyant et pas pratiquant, alors il se trompe gravement. Parce qu'il pense que ça, ce qu'il prend pour la foi, c'est en fait une croyance intellectuelle. C'est pas une foi du cœur. C'est pas la foi biblique. C'est pas la foi qui est le don de Dieu. C'est simplement un ensemble de croyances. Hein? Beaucoup de gens ont entendu parler de Dieu. Peut-être certains pensent qu'ils sont chrétiens. Donc il y a le problème de ceux qui croient qu'ils croient. Mais ça ne prend pas avec Dieu. Il y a ce qui sait ce qu'il y a à l'intérieur. Et la foi qui ne produit rien, la Bible dit qu'elle est morte. Elle ne produit rien, elle est morte. Et ici il est dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive. Alors cette fois-ci, c'est plus juste une source d'eau vive pour votre bien, mais c'est plus que ça. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Le sein, bibliquement, ici, ça ne parle pas de la mamelle, ça parle de l'intérieur, du plus profond de l'être. Et ça faisait aussi référence à une espèce de vêtement, une espèce de manteau. Ils avaient une façon de le plier, et à l'intérieur, ça faisait une petite poche. Et là, ils pouvaient mettre des choses dedans, comme un petit sac. Donc, c'était à l'intérieur. Donc, c'est de l'intérieur, de ce que vous portez en vous, que vont venir ces fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. L'intérieur, ça nous parle donc de la profondeur. C'est cette dimension, cette quatrième dimension, de la dimension spirituelle. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Personne dans l'Ancien Testament n'avait expérimenté encore quelque chose comme ça. Personne. Jésus a dit, il n'y a pas eu de plus grand prophète que Jean-Baptiste. Parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il a dit, aucun n'a été aussi grand prophète que Jean-Baptiste. Mais il a rajouté, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Nous vivons dans une ère nouvelle. Le Saint-Esprit en nous. Et il nous est dit que, à présent que Jésus a été glorifié, l'Esprit est maintenant. Il est maintenant quoi ? Répandu. Il est maintenant présent. Il est maintenant agissant. Il y a une dimension du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une espèce de nuage, ni une colombe, ni un oiseau. Ce n'est pas non plus du feu ou de l'eau. Le Saint-Esprit est une personne. Une personne de la Trinité. Une personne qui est réellement Dieu et qui agit maintenant. C'est lui qui délivre. Jésus avait dit, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est vraiment au milieu de vous. Le royaume de Dieu est toujours manifesté par le fait que les ténèbres reculent et que la lumière progresse. Et le doigt de Dieu, ou la main de Dieu, veut dire, ou des fois dans la Bible, c'est le bras de Dieu, ça parle d'une action. Ce que Dieu fait, la façon dont il agit, c'est par son Saint-Esprit. Donc c'est possible. Alors demandez-lui d'être un instrument. Ça vous fera du bien pour vous-même, parce que c'est une source de solution pour beaucoup de nos problèmes au quotidien, des problèmes insurmontables. Pour Dieu, ce n'est pas un problème. D'accord ? C'est possible. Peut-être c'est pour quelqu'un d'autre que vous souhaitez que Dieu agisse. C'est possible aussi. Dans certaines situations, hélas, nous ne pouvons pas agir à la place des autres. Nous ne pouvons pas, par exemple, prier pour que le monde entier soit sauvé. Amen, c'est terminé. Voilà. Parce qu'il faut que les gens répondent aussi au désir de Dieu de venir dans leur vie. Comprenez ? Vous ne pouvez pas sauver quelqu'un par procuration. Bon, Seigneur, il veut rien de toi, mais moi, je voudrais qu'il devienne chrétien. Donc, je me mets à sa place pour te dire oui. Ça ne marche pas. Dieu n'a pas de petits-enfants. Il n'a que des enfants directs. D'accord ? Donc on a besoin pour nous-mêmes de répondre oui. Pour d'autres, on peut prier, on peut intercéder. Mais il vient aussi des moments où ils auront besoin eux-mêmes de prendre leurs propres décisions. Mais en attendant, nous, ce que nous pouvons faire pour agir dans le domaine spirituel, pour qu'ils soient dans un environnement favorable, on peut créer la foi autour d'eux, l'amour. On peut aussi faire en sorte qu'ils ne soient pas influencés par le diable, en essayant de les protéger par nos prières. Il y a des tas de choses qu'on peut faire, même plus qu'on ne pense. Alors faisons-les. Levons-nous pour finir dans la prière. Et pour introduire cette prière, je vais simplement vous rappeler dans Romains 8, 1, il est dit « Ainsi, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions pour la dimension spirituelle. Nous te remercions de pouvoir vivre dans l'esprit. Merci Seigneur, nous prenons conscience de la place qui est la nôtre dans cet univers dans lequel nous sommes, dans cet endroit où tu nous as mis, là où nous travaillons, là où nous sommes pour nos études, à l'école, dans nos familles. Et Seigneur, nous voulons davantage être des instruments spirituels entre tes mains. Que tu puisses œuvrer au travers de nous pour communiquer la vie, communiquer la paix, la joie et l'amour au nom de Jésus. Nous voulons prendre l'autorité dans le nom de Jésus qui est la nôtre pour faire que l'environnement puisse changer, l'atmosphère puisse changer quand nous entrons quelque part dans une pièce. Que l'atmosphère, peut-être dans les maisons où nous habitons, puisse changer. Et vraiment, le Saint-Esprit qui puisse agir et se manifester. Nous te remercions, Seigneur, parce que ta parole dit « Ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. » Nous voulons aimer les choses de l'Esprit, nous laisser attirer par les choses de l'Esprit. Affectionner, ça veut dire aimer. Créer en nous ce désir, créer en nous la soif, une soif que toi seul tu pourras étancher. Seigneur, merci parce que tu dis que nous vivons selon l'Esprit, si l'Esprit de Dieu habite en nous. Et nous avons l'Esprit de Christ, et nous savons que par là, nous t'appartenons. Et merci car tu dis aussi, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Saint-Esprit qui habite en vous. Merci Seigneur pour l'œuvre de régénération en nous. Tu nous renouvelles, tu nous restaures, tu agis dans toutes les cellules de notre corps. Tu agis face aux maladies, tu agis face aux infirmités. Tu nous donnes la longévité, tu nous donnes de porter des fruits, même dans un âge avancé. Merci Seigneur parce que nous n'avons pas besoin d'accepter toutes les malédictions du monde. Ni de cancer, ni de toutes sortes de maladies nerveuses, d'Alzheimer, et de toutes ces maladies qui sont en train de frapper partout autour de nous. Mais Seigneur, nous pouvons nous fortifier dans ta parole et croire le meilleur. Merci pour tes promesses. Les promesses de Dieu sont certaines et véritables. Amen.
Nous espérons que ce message vous a plu et qu'il a été pour vous une véritable source de bénédiction. Ce message a été diffusé par le ministère enseigne-moi.com. Nous vous invitons à visiter notre site internet www.enseigne-moi.com sur lequel vous pourrez écouter et commander des centaines de prédications. Que le Seigneur Jésus vous bénisse.